grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse en direct ou en podcast. En tout début de saison, nous vous proposions une émission consacrée à l'optimisme. Et en cette fin d'année particulièrement morose et anxiogène, petite piqûre de rappel avant les fêtes en compagnie d'un géant de 2,07 m qui aime l'imaginaire, le quotidien, les concepts, le ciel, la scène et surtout, surtout les tartes aux fraises. Un humoriste illusionniste à la joie de vivre communicative, Éric Antoine. Son optimisme chevillé au cœur et au corps, notre invité l'a croisé dans des ouvrages de philosophie, chez des amis, chez sa mère, chez des inconnus, des enfants, des professeurs, des liens durables ou fugaces qui ont façonné son regard enthousiaste sur le monde. Quelques jours avant les fêtes, je vous propose donc de cultiver la magie de l'optimisme. Nous recevrons également la chercheuse en psychologie positive, Rebecca Shankland. Parvenez-vous à rester optimiste au moment où notre pays connaît l'une des plus graves crises morales, politiques, sociales de son histoire récente, ou au contraire, cultivez-vous un pessimisme de bon aloi? N'hésitez pas à intervenir au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Bonjour Éric Fotorino.
Bonjour cher Ali.
Directeur de l'hebdomadaire Le 1, cofondateur de l'hebdo. Vous remplacez ce matin notre camarade Julien Bisson. Quoi de neuf à la une du 1 ce matin?
Écoutez, on parle de nous, des médias. On se demande si nous sommes désinformés, nous les lecteurs, avec un partenariat avec RSF, ça veut dire Reporters sans frontières, et une carte incroyable de la liberté de la presse à travers le monde.
A tout à l'heure, Éric Fotorino. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rebi.
Bonjour Rebecca Shankland. Vous êtes maître de conférence en psychologie clinique et psychopathologie à l'université Pierre Mendès France à Grenoble. Vous êtes chercheuse en psychologie positive et vous avez récemment publié chez Duno « Mettre en œuvre un programme de psychologie positive ». Bonjour Éric Antoine.
Bonjour Ali.
Vous êtes illusionniste, humoriste, membre du jury de La France a un incroyable talent, hein, diffusé hier soir sur M6. Et vous publiez chez Robert Laffont « Magique optimistique ». Qu'est-ce qu'un optimiste pourrait vous demander un enfant de 8-10 ans qui nous écoute peut-être ce matin?
Alors il y a plusieurs définitions, mais la mienne est assez particulière parce que c'est celui qui se renseigne, c'est le curieux et qui au final choisit le camp de l'espoir.
Voilà. Pour certains, l'optimisme, c'est l'enfance retrouvée à volonté.
Ah, c'est joli. Je crois que c'est une phrase de Baudelaire. En tout cas, c'est une paraphrase de Baudelaire. Et j'aime cette pensée de la connexion avec l'enfant où tout est possible. Donc, c'est une quête quotidienne pour moi.
Alors, avec ce livre, votre ambition, c'est de transformer le monde par l'optimisme. Vous êtes un peu le Kim Jong-un de l'enthousiasme.
Déjà, ça me fait bien marrer ton début d'émission. Je ne sais pas si on peut définir comme ça, mais c'est, en tout cas, c'est un sacerdoce, c'est un combat et c'est une passion. Donc, c'est un mélange.
Parler de sacerdoce?
Oui, parce que c'est quasiment on est parfois dans l'ordre de la foi, même si j'essaie d'en faire vraiment quelque chose de relativement concret et intellectuel et des chiffres à l'appui et des moments de vie à l'appui. C'est par moment, en effet, une foi.
Rebecca Shankland, quelle est votre définition de l'optimisme, vous qui êtes une spécialiste de psychologie positive? Et quelle est la place de l'optimisme dans le domaine de la psychologie positive?
Alors l'optimisme est une des clés de la psychologie positive, puisqu'en fait c'est ce qui va constituer un moteur d'action pour les individus, pour continuer à avancer en direction des éléments qui sont importants pour eux dans le quotidien. On considère que l'optimiste, c'est une personne qui va considérer qu'il est possible de trouver une issue dans la situation dans laquelle chacun peut se trouver, et de continuer à agir dans cette direction malgré les tendances anxieuses, malgré les obstacles que l'on peut rencontrer.
Éric Antoine, nous dialoguons là avec une chercheuse en psychologie positive. Vous auriez pu devenir psychologue avec une mère psychanalyste et un beau-père psychiatre spécialiste de la dépression. Et je crois savoir qu'à 10 ans, vous lisiez déjà Françoise Dolto.
Oui, le complexe du homard à 10 ans, à 12 c'était Lacan, à 13 Freud, Jung. Oui, j'étais biberonné à ça et ça m'a rendu complètement ma boule. Et ça, c'était assez joyeux. Mais c'était aussi emmené tout ça par ma maman qui était une libre penseuse et qui toujours me sortait du mot. Elle me disait oui, je lui disais mais ça c'est vrai. Puis, non, elle me dit c'est pas forcément vrai. Et j'aimais ça.
Et enfant, vous aimiez coller l'oreille à la porte du cabinet de votre mère. Ça ne vous a pas rendu un peu pessimiste d'écouter ces consultations parfois compliquées, difficiles?
Parce que la souffrance que les humains exprimaient au sein de ce cabinet était très souvent comment définir ça exactement? Très nombriliste, je trouvais. Et donc, j'ai tiré ce constat. Ils étaient aveugles, parfois, à leur propre bonheur, à leur propre force. Et ma mère, elle était dans une... elle se foutait toujours de moi. Quand j'allais mal, elle me disait « Ne te fais pas si petit, tu n'es pas si grand ». Quand je trouvais pas la solution, elle me dit « Mais il n'y a pas qu'une solution, il y en a plusieurs. Et puis, s'il n'y a pas de solution, c'est que c'est la solution ». Donc, elle était toujours en train de me... Oui, de me mettre au défi de trouver un nouveau chemin et surtout de trouver mon chemin par moi-même. Et ce que vient de dire notre amie chercheuse, c'est exactement ça. L'optimiste, c'est celui qui pense que la solution existe.
Alors, vous militez, Eric-Antoine, pour remettre de l'optimisme dans nos vies. Pourtant, vous n'étiez pas forcément un adolescent heureux, même si vous viviez dans une famille. Vous viviez dans une famille aimante et pleine d'humour. À l'âge de 13 ans, vous connaissiez une incroyable crise de croissance. Vous grandissez de 20 cm en un an. Cette violente puberté vous a marqué parce que être mal dans sa peau, au sens propre et figuré, ça crée un rapport particulier au monde.
Oui, absolument. Mais je pense que par définition, l'adolescent n'est pas bien dans sa peau. C'est une période de recherche, d'incompréhension du monde adulte, une période de révolte, c'est une période d'énervement parce qu'on est dans des absolus. Et le monde, souvent, nous renvoie à autre chose que des absolus. Donc, j'ai envie de dire, c'est assez classique finalement, l'adolescence souffrance. Et souvent, les adolescents heureux font des adultes un peu pourris. Enfin, on peut le dire.
Enfin, c'est violent. 20 centimètres d'un coup, ça vous a fait mal. Ça vous a fait mal. Physiquement.
Physiquement, j'ai eu mal. Et puis, ce qui était rigolo, c'était le rapport au monde. C'est-à-dire que tout d'un coup, de devenir plus grand que les adultes et d'être toujours un enfant. Et donc, de regarder, et il y a vraiment quelque chose, le titre du prochain spectacle, c'est « Je veux pas être grand ». Et il y a ce double sens de cette taille, et de cette dominance par la taille, qui en même temps, à l'intérieur, est complètement différente. Donc, c'est une double posture comme ça qui est assez amusante.
Alors, vous avez dû vivre avec ce corps hors norme, et au fil des années, vous êtes devenu ami avec vous-même. Être ami, pour vous, c'est se pardonner, et c'est l'une des clés de votre philosophie de vie optimiste.
J'adore ce mot, le pardon, parce que le pardon, c'est par-delà le don. C'est plus fort encore que donner. Et il n'y a rien de plus fort que ça. Et dans toutes les périodes de crise, s'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de solution. Et là, on en vit une extrêmement compliquée. Et je trouve ce mot, et ce qu'il veut dire, et la manière dont il est composé, absolument magique et poétique.
Mais voilà. Qu'est-ce qu'on se pardonne? Et qu'est-ce que vous vous êtes pardonné?
On se pardonne sa bêtise, on se pardonne son manque parfois de sincérité, on se pardonne sa connerie régulièrement, on se pardonne parfois même sa violence, ses colères non maîtrisées. Un paquet de choses. Alors après, on peut se pardonner aussi sa méchanceté gratuite par moment, cette petite perversion, sa jalousie, son envie. Il y a tout un tas comme ça de pulsions internes.
De passions tristes.
Oui, des passions tristes. Ouais, c'est joli ça.
Rebecca Shankland, être amie avec soi-même, c'est l'une des clés pour devenir un peu plus optimiste dans sa vie.
Tout à fait. En fait, au niveau de la recherche, on parle de bienveillance envers soi ou de compassion pour soi, mais c'est exactement ce que Eric-Antoine décrit. C'est-à-dire, c'est la capacité à relativiser finalement, à considérer que tout être humain peut être amené à avoir ses autocritiques très fortes, à rencontrer des échecs, à accumuler des difficultés, etc. Donc cette capacité à maintenir un état de sympathie envers soi-même, de bienveillance envers soi, c'est aussi un moteur d'action, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On pourrait se dire c'est de l'auto-indulgence et on se laisse aller, donc on fait plus d'efforts. En fait, ce que montrent les recherches, c'est l'inverse, c'est-à-dire que l'autocritique va plutôt augmenter l'immobilisme et la tendance à ne pas agir, tandis que l'autocompassion ou la compassion pour soi va être un moteur d'action et aussi d'optimisme, puisqu'on se relie finalement à l'ensemble des êtres humains. On se sent davantage relié, donc davantage confiant dans des changements possibles.
Éric Antoine.
Bah là, en écoutant Rebecca, j'aimerais lui faire un câlin. Elle n'est pas dans le studio, bien entendu.
Elle est à Grenoble. Elle est à Grenoble, voilà, la France Bleu Grenoble.
Mais écoute, avec mes pouvoirs de magicien, il est possible que ça se passe.
D'ailleurs, c'est la rencontre avec un magicien lors d'un anniversaire, à l'âge de 14 ans, qui a changé votre vie et qui a transformé votre regard sur le monde.
Mais c'était amusant parce que, enfin, c'est amusant. C'était une situation un peu étrange parce que j'ai la moitié de ma famille qui est issue d'un milieu très, très populaire, agriculteur, des maçons, enfin, des, vraiment des gens du monde ouvrier et puis de l'autre côté j'avais qui étaient des catholiques, des fervents catholiques pratiquants, et de l'autre côté j'avais une famille très bourgeoise du côté maternel, des intellectuels, chercheurs, des cadres, etc., et des protestants. Et donc chez moi c'était la nuit de la Saint-Barth à chaque instant, tous les soirs les dîners de famille c'était d'une violence mais absolue, tous les sujets étaient tabous. Et un jour un magicien est venu à un anniversaire de une fête de famille, et j'ai vu ce type qui n'était pas excellent à vrai dire, mais qui faisait des tours un peu pourri, un peu ringard, mais au croisement de un nœud de serviette il retrouve le soutien-gorge de mamie, c'est pas du meilleur goût, mais j'ai vu le sourire des gens et j'ai vu cette transformation et l'union de cette assemblée si hétéroclite autour de cette émotion magique. Et cette petite émotion magique, en plus d'avoir créé du rire,
de la bienveillance,
du divertissement, elle a surtout créé du lien. Et ça m'a absolument convaincu que la magie, finalement, elle était là, elle était pas dans l'acte de la prestidigitation, de l'illusionnisme. D'ailleurs, le prestidigitateur, c'est un escroc, hein. Et le mot lui-même de prestidigitation, c'est une escroquerie. Parce que ça veut dire prestidigite, c'est la rapidité des doigts. Et nous, on se rend bien compte qu'un mouvement lent est beaucoup plus subtil qu'un mouvement rapide. Le mouvement rapide cache le mouvement lent, le grand mouvement cache le petit mouvement. Et donc, voilà, la magie est là, elle est dans cette transformation.
Allez, dites-nous si vous avez la force d'être optimiste en ces temps anxiogènes. Les enfants peuvent également nous appeler au 01 45 24 7000. À la préparation de cette émission, Alexa Rivière et Claire Destacan, avec l'aide de Laura Laplot, qui attend vos messages sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. À la réalisation, Stéphanie Texier. Wonder, I Wish. Ça vous plaît ça, Eric?
Ah, j'adore ce son. J'ai envie de danser.
Et danser.
Quelqu'un a dit, il n'y a ni optimiste ni pessimiste.
Grand bien vous fasse.
Il n'y a que des imbéciles gays et des imbéciles tristes.
Eh bien, je suis un imbécile triste.
Sur France Inter.
10h21, peut-on cultiver la magie de l'optimisme en ces temps anxiogènes? Standard ouvert au 01 45 24 7000. Avec nous, l'illusionniste humoriste Eric Antoine, qui publie Magique Optimistique, et la chercheuse en psychologie positive Rebecca Shankland.
Juste derrière l'opéra, les grands magasins, eux, ont ouvert leurs portes, mais sous haute surveillance. Les clients se rendent compte que ce n'est pas un samedi de Noël comme les autres.
D'habitude, c'est noir de monde. Enfin, le samedi avant Noël, vers 10h30, là, on sent qu'il se passe quelque chose quand même.
Quand on est arrivé en ville tout à l'heure, il n'y a pas du tout une ambiance de Noël. Non, pas du tout.
Au Galeries Lafayette, on dirait que c'est la guerre. Il y a les stands fermés, c'est triste.
Un extrait du 19-20 sur France 3. Alors, nous vivons une période anxiogène. Attentats terroristes à Strasbourg, révolte du peuple des Gilets jaunes, réchauffement climatique record en cette année 2018. Jérôme nous dit sur notre page Facebook, disparition galopante des espèces animales, pollution des océans, augmentation des inégalités sociales, appauvrissement culturel généralisé, avenir de nos enfants qui semble encore plus sombre que le nôtre. Comment voulez-vous ne pas être pessimiste? L'optimisme, c'est de l'illusion. Eric Antoine, c'est de l'illusion, l'optimisme.
Non, moi qui suis justement un illusionniste, et je le dis souvent, un escroc, mais un escroc honnête, puisque tout le monde sait que je suis un escroc. Je pense que tous ces signaux-là sont ce qu'on appelle des signaux forts, et ce qui efface le signal faible. Le principe même de la prestidigitation, c'est la misdirection, c'est le détournement d'attention, c'est-à-dire qu'on sait qu'un grand mouvement cache un petit, qu'un mouvement rapide cache un mouvement lent. Et là, on est complètement omnubilé par les chaînes d'infos, par ce genre d'effet d'annonce, par des signaux très très forts. Et il y a une multitude de signaux faibles, alors ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre en compte les signaux dont on vient de parler, mais il y a une multitude de signaux faibles sur le long terme qui nous sont imperceptibles et qui prouvent que l'humanité a plutôt une tendance générale à vraiment prendre soin d'elle et de son prochain, et que les choses s'améliorent de décennie en décennie. Alors maintenant, on a un grand défi, hein, le défi écologique est un défi énorme, et si l'humain prend soin de lui, est-ce que ça n'a pas été au détriment pendant longtemps de la planète? Ça, c'est une vraie question qu'on peut se poser.
Rebecca Shankland, il semble que les gros consommateurs d'actualité sont plus pessimistes que les autres. C'est parce que la perception de la réalité est déformée?
Exactement. Alors, c'est en fait, on a tous en tant qu'humains ce qu'on appelle un biais de négativité, c'est-à-dire qu'on va être davantage impacté par les aspects négatifs du quotidien, les difficultés, et on va davantage mémoriser ces aspects-là. Et plus on a des affects négatifs, des émotions, des angoisses, etc., plus notre attention va être orientée vers tout ce qui ne va pas. Et donc, le fait d'écouter des nouvelles va augmenter les affects négatifs, ce qui va augmenter l'orientation de l'attention vers ces dimensions-là. Et donc, ce que je trouve très intéressant dans l'ouvrage d'Éric Antoine et dans ce qu'il vient de dire, c'est exactement ce qu'on essaye de faire dans les interventions de psychologie positive, c'est-à-dire prendre en compte, bien sûr, les signaux forts, puisque c'est une manière de prendre conscience des problématiques sociales, sociétales, environnementales en particulier, et par ailleurs, rééquilibrer notre regard, c'est-à-dire aussi prendre en compte les signaux faibles, parce que ce sont sur ces signaux-là ou sur ces compétences et ressources qu'on va pouvoir s'appuyer pour avancer et faire quelque chose face à ces difficultés. Donc l'idée, c'est vraiment de rééquilibrer le regard. Alors le magicien arrive à attirer notre regard par des gestes qu'il choisit de faire. Dans les pratiques de psychologie positive, on va essayer de donner entre les mains de la personne des pratiques qui vont l'aider à faire ça par elle-même, c'est-à-dire à se dire, bah là, je sens bien que je suis uniquement orientée vers ce qui ne va pas et j'arrive plus à retrouver l'espoir pour agir, et donc je vais réorienter mon attention, ou réouvrir en tout cas mon attention pour prendre en compte aussi ce que j'arrive à faire, mes ressources, etc., et du coup pour pouvoir avancer.
Éric Antoine.
Mais là, c'est vraiment le regard, et c'est exactement ce que vient de dire Rebecca. Quand tu es omnubilé par l'information de BFM ou de
CNews,
pour ne citer que, eh bien, tu es obligé d'aller chercher l'information ailleurs. Il faut un moment qu'il y ait une démarche active. CNews et BFM, leur but dans la vie, c'est de vendre des pages de publicité, de faire le plus grand audimat possible. Et qu'est-ce qui attire les gens sur ces chaînes? C'est le tragique. Parce que nous, on a notre manière de fonctionner, de construire notre réel, il est... la mémoire se construit comme ça par ces grands, grands coups médiatiques. On se souvient tous où on était le 11 septembre 2001. Il n'y a pas une personne qui était née à cette époque qui ne se souvient pas le moment où il a vu les tours, dans quel endroit il était, ce qu'il était en train de faire. Personne ne se souvient ce qu'il faisait la veille. Personne. Et notre... Comme ça, notre mémoire se construit comme ça. Donc, comme notre mémoire se construit comme ça, notre histoire et notre perception du réel se construit comme ça. Et moi qui fais de la magie, quand on me raconte le tour que j'ai fait, je sais que ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait. Mais rien. Et tous les jours, on me raconte ça. Et donc, on se re-raconte tous nos vies et on est tout le temps dans des interprétations de nos vies. Donc, il est temps de sortir de ces interprétations. Et le seul moyen de sortir de l'interprétation, c'est de rééquilibrer de la curiosité pour moi, et le moteur principal de l'optimiste.
Éric Fotorino, directeur de l'hebdomadaire Le 1.
Oui, alors nous les journalistes, on n'est pas des illusionnistes, on est dans le réel, on tape dans le dur. Et je me souviens d'un entretien de Michel Serres il y a déjà plusieurs années, qui disait, si on prend le mot qui revient le plus souvent dans les médias, tous confondus, écrit, parlé, c'est le mot « mort ». Et donc, évidemment, quand on a ça en tête, on n'en est pas nécessairement conscient, mais on est toujours porteur de nouvelles et essentiellement de mauvaises nouvelles. Et dans notre journal Le 1, quand on fait un sujet plutôt positif, ça marche. Quand on fait un sujet sur la guerre, sur quelque chose qui, sur lequel le lecteur n'a pas prise, ben finalement ça marche moins. Ils y vont moins parce que ils se disent, bah de toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire? Et alors, on rencontre de plus en plus de gens qui vous disent, ah moi je n'écoute plus la radio le matin, je ne lis plus les journaux, je regarde plus le journal télévisé, parce que cette espèce de pluie acide de mauvaises nouvelles fait qu'évidemment ça ronge sérieusement l'optimisme.
Pierre, sur notre page Facebook, nous dit « Personnellement, je n'allume plus la télé que pour regarder Tom et Jerry avec ma fille, et ça va beaucoup mieux ». Alors, Éric-Antoine, pour vous, l'une des alternatives pour accéder à des connaissances solides sur l'état du monde, c'est par exemple le site Gapminder. Expliquez-nous ce qu'est cette ONG à but non lucratif, Gapminder.
C'est une association, entre autres, de statisticiens et de chercheurs qui ont vulgarisé, pour tout dire, des recherches faites par la prestigieuse université d'Oxford et un autre site qui s'appelle Our World in Data, notre monde en chiffres. Et c'est ça a été des études vraiment qui datent sur des décennies et des décennies et qui compilent les chiffres de tous les organismes mondiaux et de tous les États, et qui montrent dans quel état est vraiment le monde. Et ils ont construit ensuite un questionnaire à la direction des dirigeants du monde, mais je pense qu'elle est valable pour chacun d'entre nous, et qui prouve des choses, mais qui démontrent des contre-vérités absolues, qui démontrent par exemple la contre-vérité que les plus pauvres et les plus riches ont tendance à s'éloigner. C'est absolument faux. On voit que la pauvreté absolue, qui est calculée sur 1,70$ flottant, est en perpétuelle diminution, qu'aujourd'hui on est moins de 8% des êtres humains, alors qu'en 1820 on était plus de 90%, qu'il y a encore 20 ans on était 25%. Ça veut dire que tous ces êtres humains, et on parle de centaines de millions d'êtres humains, qui sont passés du fait de pas pouvoir se nourrir, de pas pouvoir se loger, de pas pouvoir accéder à la santé, qui aujourd'hui ont cet accès-là. Et c'est quand même essentiel. Quand un pessimiste me dit, mais le monde va mal, je dis, mais attendez, ces gens-là, aujourd'hui, on parle de 800 millions de personnes, ils ne sont plus en danger de vie comme ils l'étaient encore il y a 20 ans. C'est pas la gnognotte,
L'idée qu'au fil des siècles et des générations, nous ne cessons de nous améliorer, de mieux répondre à la misère, de faire reculer les maladies, de faire reculer l'espérance de vie, c'est la grande thèse du psychologue américain Steven Pinker. Absolument. Dans La part d'ange entre nous. Mais vous comprenez que ce que vous dites peut-être inaudible pour certains. Je pense aux gilets jaunes qui pourraient vous rétorquer. Ces statistiques servent la vision optimiste du monde de ceux qui ont réussi.
Oui, mais alors, c'est juste parce que aussi aujourd'hui, il y a d'autres statistiques, par exemple la pauvreté relative, ce sont des curseurs intéressants, et en France, et on se rend compte que la pauvreté relative, elle a tendance à plutôt augmenter, en particulier dans les vieux pays riches. C'est-à-dire qu'elle est calculée, elle, sur 50% du revenu médian d'un pays, et on voit qu'aujourd'hui, en France, et donc ça veut dire que la société, la classe moyenne française, elle a aujourd'hui tendance à s'appauvrir. Et donc, mais est-ce que c'est pas un mouvement, j'ai envie de dire, c'est un mouvement mathématique, c'est-à-dire, il faut dire une chose aussi, c'est-à-dire que nos pays ont construit leur richesse sur le reste du monde pendant des siècles. Aujourd'hui, le reste du monde sort de cette pauvreté extrême, et donc nous, on est dans une période de stagnation. Et cette stagnation, elle est violente pour notre société, et elle amène des maux comme nous sommes en train de le vivre aujourd'hui.
Éric Fotorino.
Oui, il y a la statistique. Alors certains disent que c'est une forme déguisée du mensonge pour dire qu'on habille tout ce qu'on veut, on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Mais ce qui est vrai, je crois, aujourd'hui, c'est que on voit les inégalités, on les voit beaucoup plus qu'avant, parce que il y a nous, il y a les médias, il y a l'image, et c'est pas un hasard si les gilets jaunes et les casseurs sont allés aux Champs-Élysées, ont cassé les vitrines de magasins de luxe, c'est parce que ce luxe étalé, cette différence étalée, c'est ça qui est plus insupportable, même si en effet, en valeur relative, ça s'est rapproché entre le niveau de pauvreté et le niveau de richesse.
Mais c'est ça qui est magnifique avec l'information, c'est que, pour le coup, les gens se rendent vraiment compte, et ça, et moi je trouve le mouvement des gilets jaunes, hyper intéressant parce justement, cette révolte, elle est juste. Il n'y a pas de question là-dessus. Mais il faut quand même se dire, attention, je parle du pardon tout à l'heure. S'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de discussion. S'il n'y a pas de discussion, on va de nouveau vers la guerre. Et pour moi, la guerre n'est pas une solution. Enfin, en tout cas, n'est pas celle que je souhaite.
Rebecca Chanclom.
Oui, tout à l'heure, vous disiez, mais est-ce que l'optimisme, ce n'est pas une manière de ne pas vouloir regarder les problèmes? Alors, c'est vrai qu'on peut considérer qu'il y a l'optimisme irréaliste qui nous empêche de voir les difficultés et qui, du coup, peut nous emmener dans le mur. Hein. C'est le cas de l'optimisme qui est inadaptatif, par exemple, dans le cadre de la santé. Des personnes qui sont trop optimistes vont avoir tendance à ne pas avoir de rapports sexuels protégés, donc elles ont plus de risques de contracter des maladies. Donc, il y a des contextes ou des situations dans lesquelles ce n'est pas adaptatif. Par contre, l'optimisme tel qu'on le définit au niveau des recherches ou ce que Jacques Lecomte a appelé l'opti-réalisme, c'est plutôt une manière de garder l'espoir et donc continuer à agir, donc tout en voyant les difficultés. Alors ça me fait penser, on nous fait souvent la même remarque, moi je travaille beaucoup sur la gratitude, et on me dit oui mais si les personnes remercient et sont contentes de ce qui leur arrive, etc., elles vont moins s'engager pour améliorer les conditions sociales ou sociétales. Et en fait, les recherches montrent l'inverse, c'est-à-dire qu'on est à la fois capable d'identifier la chance qu'on a sur certains points et en même temps, on a suffisamment d'énergie pour s'impliquer, pour améliorer d'autres situations. Donc, je prends l'exemple à l'université. J'avais fait une petite enquête comme ça pour répondre à cette question. Et donc, il y avait un moment de grève et on avait fait passer des questionnaires aux étudiants pour évaluer leur tendance à être reconnaissant envers la vie, envers les autres et leur degré d'implication dans le mouvement de grève pour faire évoluer les conditions à l'université. Et donc, ce qu'on a constaté, c'est que plus les personnes avaient un degré élevé d'orientation reconnaissante, cette capacité à repérer des choses positives dans son quotidien, plus elles étaient impliquées dans le mouvement. Donc il n'y a pas une contradiction entre être optimiste ou percevoir ce qui fonctionne bien dans le quotidien et s'engager pour améliorer d'autres aspects.
Norbert Gabriel nous dit par courriel « J'ai longtemps été d'une nature positive et optimiste, quitte à me voiler les yeux, mais aujourd'hui je suis sur le Titanic le 13 avril et le capitaine fait forcer les machines, je ne suis pas sûr d'avoir un canot de sauvetage possible. » Et vous Sophie de Toulouse, bienvenue dans l'émission. Vous êtes Bonjour, vous êtes plutôt de nature optimiste en ces temps anxiogènes?
Ben écoutez, moi j'étais très pessimiste jusqu'à il y a peu. J'étais d'un naturel pessimiste. J'ai vécu des choses pas très gaies. Je viens de quitter mon travail suite à une rupture conventionnelle. Et j'ai dit que à partir de 50 ans, il fallait voir la vie du bon côté et qu'il me restait que 20-30 ans à vivre et que j'avais envie d'en profiter. Donc je profite du fait d'être avec Eric Antoine pour le saluer bien fort et lui dire que je l'ai vu à Toulouse avec mon fils et qu'il l'adore.
Oh, merci.
Donc voilà.
Et c'est réciproque. Je ne sais pas qui tu es, mais j'ai envie de te faire des câlins
de
aussi.
Sujet sérieux. Voilà, donc j'ai beaucoup apprécié. Voilà, donc
merci.
Maintenant, je pense que c'est vrai que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais que, contrairement à ce que vous venez de dire Ali, moi je suis pas sur le Titanic, au contraire j'essaye de voir les choses de façon beaucoup plus rose et d'essayer d'aider les gens et de travailler en local pour améliorer le quotidien des gens et le mien en particulier, parce que je pense qu'un sourire quand on donne un sourire, ça ne coûte rien et ça peut faire beaucoup de bonheur autour de soi.
Merci beaucoup Sophie de nous avoir appelé de Toulouse. Alors on a autour de la table trois stagiaires de troisième, trois jeunes filles qui ont eu envie de témoigner ce matin sur notre sujet du jour. Clarisse, Camille et Bruna, bonjour à toutes les trois. Moi j'aimerais savoir si voilà on parle d'une actualité anxiogène, morose. Vous, à votre âge, vous avez 14-15 ans, est-ce que vous êtes plutôt optimiste? Tiens, Clarisse.
Moi, en fait, j'ai peur de mon avenir. Je pourrais pas dire que je suis vraiment optimiste. Je me dis, mais ça va être quoi, en fait, mon avenir avec ce qui se passe en ce moment? Voilà, enfin, je vais faire quoi comme métier? Est-ce qu'il y aura des choses graves qui vont se passer? Est-ce qu'il y aura... pour l'instant, j'ai peur, donc je suis pas super optimiste, non.
Rebecca Shankland, qu'est-ce qu'on peut dire à Clarisse, qui à 14 ans a un peu peur?
Eh ben effectivement, alors c'est vrai que les adolescents sont aussi fortement influencés par l'entourage, donc tous les discours qu'on peut entendre, ce qui est véhiculé par les médias, etc. Donc j'entends bien que ça puisse générer ces craintes. Alors c'est vrai que à l'adolescence, ce sur quoi on va travailler, c'est les valeurs des étudiants ou des élèves, parce que lorsqu'ils peuvent s'engager, lorsqu'ils ont l'impression de pouvoir agir sur les situations, ça va diminuer ces angoisses, ça va augmenter le sentiment de pouvoir agir, et donc ça va rendre plus optimiste et donc engager davantage dans des actions qui peuvent aider, qui peuvent contribuer à changer les choses.
Éric-Antoine, il y a des pages sur la peur dans votre ouvrage.
Mais la peur est un des moteurs les plus puissants qui soient. La peur n'est qu'une énergie et finalement c'est comment on s'en sert et qu'est-ce qu'on en fait. Elle peut avoir deux mouvements au minimum, c'est celui de nous paralyser et de nous tétaniser. Et l'autre, c'est si on l'accepte, si on la laisse nous traverser, elle nous nettoie. C'est-à-dire que cette peur-là, elle fait le vide derrière elle. Tu la laisses te traverser et derrière ce vide, derrière cette destruction dont elle a été l'instigatrice, il y a toi. Et c'est comment tu laisses la place à ce que tu es. Et je dirais, la peur, enfin l'inconnu, c'est une des plus belles choses, parce que le dénominateur commun à toutes les peurs, c'est l'inconnu. C'est la peur de demain, du futur, et le mouvement vers l'inconnu, c'est ce qui, pour moi, est le caractère le plus fort de l'optimiste. C'est-à-dire la curiosité. Dans ce mouvement vers l'inconnu, il y a ce mot curieux qui est le summum de tous les mots les plus importants au monde. C'est, dans curiosité, il y a cura, ce qui veut dire soigner en latin. Et le curieux, c'est celui qui soigne. Donc le fait d'avoir peur, si ça devient pour toi un moteur de chercher des solutions, de se dire, mais bon, ok, c'est demain, on ne sait pas de quoi ça sera fait. Mais alors, de quoi ça sera fait? Et de se poser cette question-là. Et d'aller dans les terrains que tu n'as pas encore explorés. Parce que finalement, si la peur est là, c'est parce que la solution n'est pas encore dans ton domaine autour de toi. Donc il faut que tu cherches à d'autres endroits pour vivre mieux avec cette peur. Et quels sont ces autres endroits? Et quand tu commences à te poser cette question-là, tu as gagné.
Et Éric-Antoine, vous citez dans votre ouvrage « La litanie de la peur » dans le roman « Dune » de Frank Herbert. Est-ce que vous pouvez lire ces quelques lignes?
Ah oui,
Herbert.
Ça, c'est une litanie. Alors, c'est un roman magnifique que j'ai découvert adolescent et qui est d'ailleurs une trilogie, mais qui est un bijou absolu, qui est un space opéra en plus hyper divertissant, mais qui est surtout une vision de ce que pourrait être le futur lointain de l'humain. Et lorsque l'un des personnages principaux est habité par la peur et tétanisé, il se raconte une litanie qui s'appelle la litanie de la peur. Et il dit la douleur, c'est de la peur. Et je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale. J'affronterai ma peur, je lui permettrai de passer sur moi, au travers de moi, et lorsqu'elle sera passée, je tournerai mon œil intérieur sur son chemin, et là où elle sera passée, il n'y aura plus rien, rien que moi.
Extrait du roman Dune de Frank Herbert. Clarisse, est-ce qu'on t'a un peu convaincue? Est-ce que t'as un peu moins peur?
Je sais pas.
Tu vas réfléchir à tout ça. En studio, Déboule, quelqu'un qu'on connaît bien, hein, chez Nagui et le matin. Daniel Morin, qu'est-ce que vous faites là?
Bonjour, non, mais j'ai entendu ce témoignage au téléphone, c'était Sophie, je crois.
Sophie de Toulouse, oui.
Ouais, Sophie de Toulouse qui nous expliquait qu'elle avait décidé de passer à une certaine limite les 50 ans, de prendre la vie du bon côté. Et moi qui suis vraiment pessimiste, je me suis dit, mais Sophie a raison. Sophie a raison, décidons d'être heureux. Et je voudrais profiter de ce sentiment, parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas très heureux autour de cette table. En tout cas, on ne laisse pas s'exprimer. Prenons-nous la main, prenons-nous tous la main. Prenons-nous la main. Et là, je vois les sourires arriver. On est heureux, on le décide. Voilà, c'est tout, il suffit de ça. Vous êtes d'accord avec moi?
Merci
à Sophie, en tout cas. Et à très vite.
Merci.
Et bravo Ali, merci pour tout.
Merci Daniel.
Namasté.
Eric Cotorino.
J'ai l'impression qu'il s'est un peu foutu de nos gueules, non?
Belle transition, Eric Fotorino, directeur de la rédaction de l'hebdomadaire Le 1. Chaque semaine, vous portez un regard singulier sur notre société. Et cette semaine...
Eh bien, on est parti sur l'optimisme. Ah non, vous voulez dire dans le 1. Ali, l'optimisme, il y a déjà un an. Faut-il être optimiste, ça s'appelait. Non, cette semaine, le regard, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur sommes-nous désinformés sur les médias, la presse et les libertés des journalistes dans le monde. Voilà.
Et donc, allez-y, on vous écoute. Là,
ah oui, d'accord, donc j'ai mon devoir à rendre, c'est ça?
Voilà, c'est Ali, ça, exactement.
D'accord. Alors, en m'offrant de plancher ce matin sur l'optimisme, cher Ali, vous m'avez donné l'occasion de questionner des esprits qui en savaient long sur l'art d'espérer. Je connaissais depuis belle lurette le mot d'ordre de Romain Rolland, pessimisme de l'intelligence, optimisme de la volonté. La formule de 1920 a fait florès puisque le philosophe Alain, dans ses propos sur le bonheur, 1928, proposa cet aphorisme « le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté ». Avant qu'Antonio Gramsci, dans ses lettres de prison, n'enfonce encore ce même clou, je suis pessimiste avec intelligence, mais optimiste par la volonté. Autrement dit, être optimiste, c'est simple. Il suffit de le vouloir, c'est ce que nous disait Daniel Morin à l'instant. Et oubliez, s'il vous plaît, l'affreux Flaubert, qui, dans son dictionnaire des idées reçues, tranchait la question d'un verdict sans appel, optimiste 2 points, équivalent d'imbécile. Ce à quoi nous pourrions répondre crânement qu'il est des imbéciles heureux, bien plus heureux que les lucides grincheux. Vive les docteurs, tant mieux, à bas les docteurs, tant pis. Bien réfléchi, il me semble que l'optimisme, s'il ne nous vient pas tout naturellement, est une posture à cultiver sans répit. Une hygiène de vie saine et salutaire, à condition de n'être pas dupe et de savoir avaler de temps à autre une cuillerée de soupe à la grimace, la mer avec le sucré, disait Cioran. Pour voir le verre à moitié plein quand il est aussi à moitié vide, vous connaissez bien sûr la méthode Coué. Pensez que tout va bien se passer et tout se passera pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est un peu ce qu'enseignait le précepteur Pangloss dans Candide, le fameux conte de Voltaire dont le titre complet ne vous aura pas échappé. Candide ou l'optimisme.
Mais Eric Fotorino, Voltaire, me semble-t-il, s'employait surtout à mettre à l'épreuve l'optimisme de son héros.
Vous avez raison, Ali. L'optimisme voltairien est une leçon initiatique de réalité. Depuis qu'il a été chassé du meilleur des mondes possible pour avoir embrassé la belle Cunégonde, Candide voit son optimisme malmené dans un voyage à travers le monde où il rencontrera l'esclavage, la guerre, l'injustice et le terrible tremblement de terre de Lisbonne. De quoi le guérir de sa naïveté. Mais confronté au pessimisme noir de son ami Martin, rencontré dans son périple, il rejette sa vision selon laquelle l'homme est fait pour souffrir. Conclusion, il faut cultiver son jardin, savoir raison garder, une capacité à espérer comme une aptitude à s'inquiéter qui peut servir de protection. J'oubliais, votre demande n'était pas l'optimisme, mais la magie de l'optimisme, n'est-ce pas Eric, Antoine? Qui dit magie dit illusion. Alors, laissons une fois de plus le dernier mot à Voltaire. Un jour, tout sera bien, voilà notre espérance. Tout est bien aujourd'hui, voilà l'illusion. C'est la limite de l'optimisme, ne pas se laisser illusionner. En piochant dans un ancien numéro du 1, justement sur l'optimisme, j'ai trouvé cette réflexion d'un de vos invités, souvent Christophe André, qui sonne comme une mise en garde. L'optimisme ne doit pas être qu'une espérance, il doit être une vision étayée, puis une action.
Le tout dernier numéro de l'hebdomadaire Le 1 est à lire cette semaine et il est disponible évidemment en kiosque ou en librairie. Allez, dites-nous si vous avez la force d'être optimiste en ces temps anxiogènes. 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter.
J'ai quelques mots à te dire, des mots simples à te dire. On les entend souvent dans les films, chez les gens, J'ai déjà dit ces mots simples en y croyant ou en feinte. La première fois, enfin, à moi-même de temps en temps. Que l'hiver soit aux amants, je voudrais pour dire ces mots, avoir inventé ces mots, qu'on ne les dise chaque fois en ne pensant qu'à toi.
Vanessa Paradis en live au studio 104 de la Maison de la Radio et qui interprétait ces mots simples.
Il est optimiste, votre copain, hein?
Il va finir par nous porter la poisse, ouais.
Grand bien vous fasse.
Tout va bien, tout va bien, je suis gay, tout me plaît.
Voilà, ça c'est de la positive attitude.
Sur France Inter.
10h48, peut-on cultiver la magie de l'optimisme en ces temps anxiogènes? Standard ouvert au 01 45 24 7000.
Je trouve que c'est la première marche de l'éducation, l'optimisme. Pourquoi? Parce que l'optimisme favorise d'abord la motivation. Ça aide un enfant à se sentir motivé, justement, à aller vers ce qui l'entoure. Ça favorise aussi la confiance en soi. La confiance en soi, ça s'acquiert peu à peu dans l'enfance. C'est pas une représentation qu'on a facilement quand on est tout bébé ou tout petit. Et la base de la confiance en soi, c'est un certain optimisme, bien sûr, sur la vie, sur soi, qui va aller d'ailleurs jusqu'à l'estime de soi. Et puis, un enfant optimiste, c'est un enfant qui est quand même plutôt heureux. C'est-à-dire qu'il voit la vie plutôt du bon côté. La fameuse formule, le verre plutôt à demi plein qu'à demi vide.
Le psychiatre Alain Braconnier sur France Inter en 2015. Rebecca Shankland, hein, je rappelle que vous êtes chercheuse en psychologie positive, en duplex de Grenoble. Ça devrait s'apprendre à l'école, l'optimisme? Et qu'est-ce qu'on y apprendrait d'ailleurs?
Oui, effectivement, il existe des programmes qui visent à développer l'optimisme en milieu scolaire. Alors, par exemple, il est proposé aux enfants de compléter des petites histoires, de les terminer d'une manière positive. Et donc, les recherches ont montré que ça permettait d'aider les personnes à réorienter leur attention vers une vision plus optimiste de l'avenir et d'elles-mêmes. Donc, ça existe. Mais je dirais, comme Christophe André, comme vous l'avez cité tout à l'heure, je dirais que c'est important de garder des réserves par rapport au développement de l'optimisme à tout va, dans le sens où ça peut être inadaptatif dans certaines situations. Et l'objectif, ça va être, comme vous le citiez là avec Alain Braconnier, de travailler beaucoup sur la confiance en soi, donc la capacité à repérer ce qui fonctionne bien, sur quoi on peut s'appuyer pour continuer à avancer, plutôt que de se raconter des histoires. Donc c'est vrai que les magiciens ou les illusionnistes aiment bien raconter des histoires et ça peut être utile. Mais l'idée, c'est peut-être de réfléchir à quelle histoire va m'aider le plus à agir pour faire avancer les choses et donc pour affronter les difficultés et ne pas chercher à les éviter. Tout à l'heure, vous disiez à l'adolescente est-ce que tu as moins peur maintenant? En fait, notre objectif n'est pas que les personnes aient moins peur, mais que cette peur puisse être utile. Et donc, comme disait Eric Antoine, la peur, c'est un moteur aussi d'action, mais ça peut nous paralyser. Donc, l'idée, c'est comment je vais m'appuyer sur les émotions qui surviennent, non pas pour rester immobile, mais pour en faire quelque chose, alors que si je cherche à fuir ces émotions, ça va plutôt orienter vers des conduites d'évitement, comme des consommations de substances comme l'alcool, le cannabis, etc., pour essayer de diminuer l'intensité des émotions. Mais finalement, ça nous aide pas à agir.
Éric Antoine, dans votre...
Moi, j'ai peur tout le temps. Là, j'ai peur. À chaque fois que je m'adresse à vous, je me dis, est-ce que je vais pas dire une couillonnerie ? J'ai peur tout le temps.
Éric Antoine, dans votre livre Magique Optimistique, vous nous proposez trois sésames pour voir le monde de façon plus optimiste. D'abord, l'acceptation. Ça signifie quoi de s'accepter ? Et pourquoi ça favoriserait l'optimisme ?
C'est la première question, c'est le premier problème. C'est-à-dire qu'on est tous dans une situation donnée, on est dans un endroit donné, avec un corps, il y a l'inné et l'acquis, et toute cette partie innée qui nous est imposée, il y a deux solutions. C'est soit on l'accepte, soit on l'accepte pas. Si on ne l'accepte pas, et ce refus est justement qui crée une inimitié vis-à-vis de cette situation, cette inimitié, ce postulat de base, nous met dans la situation d'échec absolu. S'il n'y a pas d'acceptation à la base, il n'y a pas de solution possible.
Donc, vous êtes un adepte de la philosophie stoïcienne, il faut faire avec ce qui ne dépend pas de moi.
Absolument, j'étais incapable de dire cette phrase, mais oui, c'est exactement ça.
Vous citez quand même le poète grec Pindare dans votre ouvrage,
oui.
Un homme né de l'ombre.
Oui, alors je connais peu de Pindare, mais cette phrase m'a frappé très fort, et né de son ombre. Et elle a beaucoup, beaucoup de sens. Il y a une longueur d'ombre, il y a une longueur d'âme, cette dimension qui est en deux dimensions, alors que nous sommes en trois, et cette naissance de ce départ comme ça des deux dimensions et du sombre, voire aller vers une élévation. Enfin, il y a quelque chose de très, très fort dans cette phrase.
Et pour vous, l'acceptation ne consiste pas seulement, je vous cite, à ranger le cagibi bordélique de son subconscient, c'est aussi retrouver son point cardinal.
Oui, il y a en fait souvent et en particulier dans cette période que vous êtes en train de vivre, mesdemoiselles,
on a trois adolescents ici.
On nous affuble de tous les mots. C'est-à-dire moi, par exemple, qui ai grandi très vite, j'étais d'une maladresse absolue. Donc je m'asseyais sur une chaise, elle cassait. Je m'asseyais sur un ami, il décédait. Enfin, c'était on m'appelait grand corps maladroit, si tu veux. Et puis au Fort Boyard, on m'appelle passe nulle part. En fait, on m'a affublé de tous les noms. Et puis je commence ce métier de prestidigitateur, enfin en passion, en hobby. Et je me rends compte que finalement, ce défaut de maladresse absolue, ça me rend plus rigolo et plus marquant que les autres. Et on nous affume de ça. On dit, t'es jaloux. Non, t'es pas jaloux, t'es exclusif. On te dit, t'es paresseux. Non, t'es pas paresseux. Tu sais te détendre. Combien de gens savent se détendre aujourd'hui? Et c'est de transformer comme ça ces défauts en des qualités qui est important, qui est le mouvement de base.
Le deuxième sésame, pour être plus optimiste, pour vous, c'est la confiance en soi.
Mais il est consécutif à l'acceptation. Sans acceptation, il n'y a pas de confiance en soi, c'est impossible. Et la confiance en soi, elle passe aussi par plusieurs étapes. C'est-à-dire que si personne ne vous a jamais fait confiance, et si vous ne pouvez pas vous faire confiance. C'est comme le mouvement de l'amour, sans avoir jamais été aimé, très difficile de s'aimer. Et si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer l'autre. Et donc, il y a le même mouvement dans la confiance. Et donc, c'est comment, petit à petit, tu te fais confiance. Et je cite toujours cet exemple du bon patron, la différence entre le bon patron et le mauvais patron, c'est que le bon patron qui fait confiance à son collaborateur qui vient d'employer va lui donner les clés de son succès, puisqu'il ne va pas le regarder, l'observer, il va lui laisser faire ses erreurs, lui laisser résoudre ses propres erreurs, et le bon patron va dire, j'ai bien fait d'engager ce gars-là, cette nana-là, parce qu'il a résolu lui-même ses erreurs et il appelle une richesse à la société. Et celui qui n'est en non-confiance en lui, met en doute son choix de collaboration, met en doute son collaborateur, ne lui laisse pas résoudre lui-même ses erreurs. L'autre se sent observé, et en se sentant observé, il rentre dans un cercle vicieux et la relation est vouée à l'échec.
Voilà. Bonjour Philippe, vous appelez des Pyrénées-Atlantiques.
Oui, bonjour.
Bienvenue dans l'émission. Alors, est-ce que vous êtes plutôt optimiste en ces temps anxiogènes ?
Oui, moi je disais... Au standard, là, que donc moi je suis un optimiste un peu forcené, mais ce qui me renouvelle mon optimisme, parce que je doute aussi en permanence, c'est d'avoir fait des enfants, et ce qui vient d'être dit sur l'éducation et la confiance à donner aux enfants, j'ai essayé de le cultiver. Et moi je suis devenu grand-père depuis, et de mon fils aîné, qui il y a 10 ans m'a écrit qu'il ne comprenait pas tous mes choix de vie, mais je lui avais montré que tout était possible dans la vie. Et il est allé très, beaucoup plus loin que moi dans le tout est possible, puisqu'il est parti faire le tour du monde en vélo. Mmh. Et à la rencontre des gens, d'agriculteurs, de petits agriculteurs dans je sais plus, 17 ou 20 pays. Et lui aussi m'a montré que tout était possible dans la vie. Mmh. Donc c'est ça qui me rend optimiste. Et puis il y a aussi les Pyrénées que je vois en vous parlant.
Ça ah ben bah ça je vous comprends là, Philippe. Vous savez que je suis pyrénéen. Hein, moi, je suis un enfant de là-bas. Donc voilà, je vous comprends totalement. Merci beaucoup,
moi,
Philippe.
Moi, savoyard, c'est beaucoup plus beau.
Non, c'est pas vrai. On va s'expliquer aux antennes, Eric Antoine. Attention, quoi que vous faites, 2m07. Et les types de 2m07 ont souvent
c'est quand même davantage raison que, c'est beaucoup plus haut.
Que le reste du monde. Merci beaucoup. Philippe, on va terminer avec vous, hein. Camille et Bruna, vous êtes stagiaires de 3e, vous avez 14-15 ans. Voilà, est-ce que vous êtes optimiste en ces temps un peu déprimants, anxiogènes, Camille?
Moi, je suis plutôt de nature à être pessimiste, mais dans cette période, je me dis qu'il faut vraiment être positive, tout en voyant les dangers et tout dans le monde. Mais
faut être vigilant.
Voilà. Mais il faut toujours, être positif.
Bruna?
D'un côté, j'ai peur. Parce que de voir tout ce qui se passe, c'est quand même... Je pense que tout le monde a peur même. Mais je pense que d'un côté, il faut quand même rester positif. Parce que si on n'est pas positif, on peut s'effondrer. Je trouve qu'il faut, un minimum l'être. Parce que justement, tout ça, on ne sait pas jusqu'où ça va aller ni rien. Et... ça fait peur, oui, d'un côté.
Merci beaucoup, Camille et Bruna. Éric Antoine, on termine avec... vous nous incitez à découvrir le pouvoir du oui. Ce grand oui à la vie, cher à Nietzsche.
Oui. C'est-à-dire, à chaque fois que je dis oui, une nouvelle aventure se présente. Et dans chaque nouvelle aventure, il y a une leçon. Et chaque leçon me rend de plus en plus curieux et donc de plus en plus optimiste.
Merci, Éric Antoine. Magique, optimistique, c'est publié chez Robert Laffont. Rebecca Shankland, vous publiez chez Dunod. Mettre en œuvre un programme de psychologie positive. Merci aux équipes à France Bleu, à Grenoble. Et merci, Éric Fotorino, et à nos stagiaires de 3e. Demain, merci. Avec l'Obs, je vous propose de partager nos plus belles histoires d'amour. Nous verrons notamment s'il existe vraiment des hasards en amour. 01 45 24 7000, sans oublier la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. À la technique ce matin, Rémi Sistiaga et Kevin Pelot.